Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Difficulté de recrutement dans certains secteurs, notamment la restauration. Est-ce que les Français ne veulent plus travailler? On est avec Franck, qui est transporteur, qui a 51 ans, donc qui a déjà beaucoup travaillé sans doute dans sa vie. Les jeunes, bonjour Franck.
Bonjour.
Les jeunes, vous avez le sentiment qu'ils veulent travailler ou pas?
Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent travailler différemment.
Ah, ça c'est bien. Vous allez nous expliquer ça. Amandine, le rappel des titres.
Et elle a une loterie qui reconfine plus seulement les non-vaccinés. Hein. Cette fois, c'est tout le monde qui est concerné, et ce, à partir de lundi. La vaccination sera là-bas obligatoire, par ailleurs, à partir du 1er février. En France, pas de reconfinement, mais des classes fermées, trois fois plus qu'avant les vacances de la Toussaint. Et puis la justice ouvre une enquête après l'agression d'une collégienne de 13 ans et demi, mardi, à Albertville. Sarah a été rouée de coups par trois autres jeunes filles. Une agression d'une extrême violence qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Notre météo avec vous, Valérie Quintin, programme de ce week-end avec deux tendances. Ça se résume assez simplement. Un beau samedi et ce sera pourri le dimanche.
Oui, exactement. Il faut tout miser sur samedi. Pourtant, on aura de la grisaille. Hein. Comme aujourd'hui, des brouillards récalcitrants qui vont tenir une grande partie de la matinée. Place au soleil l'après-midi avec toujours une petite grisaille localement coriace au nord de la Seine. Mais enfin, globalement, demain, c'est du beau temps. Moins 2 à 10 degrés au réveil de la Corrèze au Pas-de-Calais. 6 à 20 l'après-midi avec 9 à Mulhouse. 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, 13 à Caen, 16 à Montpellier, 19 à Bastia. Et puis dimanche, on va être pris en sandwich entre deux dégradations. Une première qui arrive par le nord-ouest, une autre qui remonte d'Espagne par les Pyrénées. Résultat, on peut espérer quelques petites éclaircies entre la Vendée et l'Alsace. C'est pas gagné pour les autres. Des nuages, quelques précipitations, un petit peu de neige en montagne et des températures encore assez stables avec 9 degrés de moyenne pour la moitié nord, 13 pour la moitié sud. On parle beaucoup de cette vague de froid
qui polaire,
arrive.
Polaire, on nous disait.
Alors polaire, faut peut-être pas exagérer. Les températures vont baisser tout au long de la semaine. On va vraiment, vraiment sentir le froid jeudi, vendredi et samedi prochain. Ça va bien piquer là.
Merci beaucoup Valérie.
Merci Valérie, merci Amandine, merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui était à la rédaction en chef du 12h30, il est 13h03. On parle des Français qui ne veulent plus travailler.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Mais avant cela, j'ai même pas rappelé le rendez-vous que vous avez ce soir avec les auditeurs à 19h, Amandine.
Ils refont la France, on décrypte l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère et puis ils traquent aussi nos petites manies. C'est souriant, plaisant, vraiment, c'est très intéressant.
Ouais, et puis c'est une des nouveautés de la rentrée et ça marche bien.
Et on s'amuse bien.
Exactement, donc rendez-vous à tout à l'heure. Vous aimez travailler, manifestement. Oui. Franck, qui est donc transporteur, vous disiez, les jeunes, c'est pas tant qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent travailler différemment. Ça veut dire quoi, travailler différemment?
Bah, différemment, ça fait maintenant 15-20 ans, quand on regarde l'évolution de la société, on a une société qui se développe, à mes yeux, hein, sur le niveau du moi-je. Du moi-je. Oui, mais je veux travailler, mais moi aussi, je veux profiter. Vous pouvez profiter quand vous avez de l'argent, vous pouvez profiter. Mais malheureusement, il y a des gens, ils vont toucher le SMIC toute leur vie, mais ils seront frustrés parce qu'ils ne pourront pas, profiter. Mais moi, j'ai vu dans mon métier une évolution qui est terrible, quoi. Parce que moi, je m'en vais personnellement le lundi matin, c'est 4-5 heures du matin, je rentre le vendredi après-midi. Mais des jeunes ne veulent plus ça, ne veulent plus.
Parce qu'on peut considérer que de partir du lundi au vendredi, de ne pas voir sa famille pendant 5 jours et d'être
mais
sur
monsieur
la route...
Monsieur Pro, raisonnement par l'absurde. Nous sommes le vendredi midi, mais arrêtons toute la France. Arrêtons toute la France. Fermons les bars, les gardiens de prison ils rentrent chez eux, les hôpitaux ils ferment.
Non mais...
Profitons de ça.
Non mais Franck, vous êtes un peu excessif.
Vous ne pouvez pas construire une société comme ça,
je vous pose la question. Peut-être que certaines gens à 60 ans se disent « Ah, j'ai pas vu ma famille, j'ai pas vu mes enfants grandir, je n'ai pas envie d'être comme mon père qui n'a pas vu ses enfants grandir, il était parti du lundi au vendredi, moi j'ai envie d'être là tous les soirs. » Je peux entendre
Écoutez,
ça.
Écoutez, monsieur, pour mon cas perso,
oui.
Il y a 2 ans, malheureusement, la vie m'a pris ma petite fille de 20 ans. Je voyais arriver la chose. Donc, en classe de première, j'ai pu la scolariser au lycée français de Sydney. Elle est partie toute seule, 15 ans, 9 mois. Elle a fait sa terminale au lycée français de Dublin, d'accord? Ça m'a coûté extrêmement cher. J'ai travaillé dur que pour elle, d'accord? Que pour elle. Elle a fait sa première année de Toulouse Business School à Barcelone, sa deuxième à San Francisco. Je ne voulais plus qu'elle reste dans ce pays. Je ne voulais plus. Parce que les gens ne veulent, ils savent pas c'est pas le mot sacrifier, mais donner un peu d'eux pour les autres. Parce que tout est centré sur leur moi-je. Mais c'est, nous, on le vit au quotidien. On le vit au quotidien.
Mais vous, vous engagez, vous êtes transporteur, mais vous êtes patron de,
oui,
de votre...
Oui, je suis patron. Et Dieu merci, j'ai des employés exceptionnels avec qui je m'entends très bien. J'ai mis un 13e mois. Je leur laisse choisir leur matériel. Monsieur Pro, quand vous achetez un camion, moi, avec ou sans moi, la terre, elle tourne, il n'y a pas de problème. Mais quand vous achetez un camion, c'est quand même 140 000 euros. C'est quand même moi, pardonnez-moi d'être trivial, je vais devant le banquier et je lui pose devant le banquier en lui disant, monsieur, financez-moi mon outil de travail. Et quand du jour au lendemain, vous vous faites planter, les mensualités, elles courent.
Qu'est-ce que vous appelez vous faire planter?
Mais quand vous avez du jour au lendemain un salarié, nous, c'est 8 jours le préavis. 8 jours.
Et là, par exemple, vous avez combien de camions, combien d'employés ?
Maintenant, on est 3. On est 3 camions. Il y en avait 4. Il y en a un qui est parti. Je ne l'ai pas renouvelé. J'ai vendu l'ensemble. Au revoir et merci.
Et donc, les 3 personnes qui travaillent avec vous depuis combien de temps ?
Ça fait, il y en a un 5 ans et l'autre 3 ans. Ça va super bien. Voilà, donc, ça va très bien.
Bon, restez avec nous, on marque une première pause. Je salue Damien Béchiot.
Bonjour Pascal.
Damien, lui, il aime travailler.
Évidemment Pascal.
Mais je le disais tout à l'heure, nous on a de la chance en fait. Et c'est vrai que c'est une chance de traverser la vie avec un métier qui nous plaît. Il y a des gens pour qui le travail, je peux le comprendre, c'est une corvée. En fait, le travail, c'est très subjectif. Lorsqu'on fait des heures sur quelque chose qui nous plaît, c'est pas la même chose que de faire moins d'heures peut-être sur quelque chose qui ne nous plairait pas forcément. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Avez-vous encore envie de travailler ? Comment expliquer cette pénurie de main-d'œuvre en France ? Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur de travail, était l'invité de RTL Midi.
Les Français n'ont pas moins envie de travailler. La preuve d'ailleurs, c'est que le chômage est en train de se réduire. Par contre, les Français n'ont plus envie de travailler comme auparavant. Il s'est passé beaucoup de choses et le confinement, le télétravail ont accentué des phénomènes que nous vivons aujourd'hui.
Chef d'entreprise, avez-vous plus de difficultés à recruter ? Arrivez-vous à trouver le personnel suffisant ? Franck est patron d'une entreprise de transport. Il était le premier à intervenir dans l'émission.
Moi, je m'en vais personnellement le lundi matin. C'est 4-5 heures du matin, je rentre le vendredi après-midi. Mais des jeunes ne veulent plus ça. Ne veulent plus. Nous sommes le vendredi midi. Mais arrêtons toute la France. Arrêtons toute la France. Fermons les bars, les gardiens de prison ils rentrent chez eux, les hôpitaux ils ferment. Non mais...
Les salaires sont-ils le premier point de blocage ? 3210, 3210 sur votre téléphone.
On va être avec... D'abord, je remercie Franck. Merci beaucoup, Franck. Et bonne chance et bon courage à vous. Yann va être là, qui habite Le Havre. Bonjour, Yann. Je vais donner votre âge, là aussi, parce que vous avez 48 ans, donc ça signifie que vous travaillez quand même sans doute depuis une bonne vingtaine d'années, voire peut-être davantage. Et vous êtes en rapport avec les plus jeunes. Que pensez-vous aujourd'hui de leur engagement, de leur énergie ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour Amandine. Je pense pas qu'il y ait moins d'envie de travailler qu'avant. C'est juste plus flagrant. Parce qu'il y a plus de travail qu'avant le Covid. Clairement, les difficultés, elles ont toujours existé. On a toujours eu du mal à recruter, mais on avait beaucoup moins de travail. On a tous connu, moi je suis dans le bâtiment, on a tous connu une période où un chantier est arrêté et on est obligé de dire, bon allez, on arrête les intérimaires une semaine, etc. Malheureusement, on ne les retrouvait pas forcément, même s'ils étaient bons. Tout de suite, il y a un boulot fou dans le bâtiment. Je ne connais pas d'entreprise du bâtiment qui n'a pas de travail. On est tous débordés. Mais on ne trouve personne.
Et pourquoi ? Mais peut-être que vous ne payez pas assez les gens. Si vous payez un peu plus, les gens viendront peut-être davantage.
Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la personne qui m'a appelé. Les gens qui sont embauchés chez nous ne partent plus. On n'a pas de démission, sauf cas exceptionnel, une mutation, parce que... Madame change de région, etc. Mais on n'a pas de démission. Un jeune qui démarre, qui n'a aucune expérience, qui est aide, donc qui est là pour aider, il est à 1600 euros par mois net, sur 13 mois. Au bout de quelques années, il est à 2000 euros net, sur 13 mois. D'accord ? On n'a pas de démission. On n'arrive plus, à mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui sont là, qui sont prêts à apprendre le métier, qui ont du savoir-être, du savoir-vivre, donc être là à l'heure, dire bonjour, etc. Moi, j'ai eu un intérimaire qui avait envie de travailler, visiblement. Il est arrivé en retard deux fois. La seconde fois, je lui ai dit, écoute, ça fait deux fois, quoi. Il est rentré chez lui.
C'est-à-dire qu'il il n'a pas accepté la remarque que vous lui avez faite.
Il est rentré chez lui.
Et donc, il ne veut plus revenir.
Non, mais c'est improbable.
Quel âge il avait ?
Il avait 26 ans.
Et c'est quoi sa formation à ce garçon ?
Alors nous, on est dans un métier atypique. Très atypique, on fait de la pose de clôture et de portail. Et à 80% pour l'industrie. On ne fait pas de particulier, on travaille pour des gros chantiers. Donc on n'a pas d'école de formation.
Mais il faut bien qu'il trouve du job quand même, parce que ça va être partout pareil d'arriver à l'heure pour travailler. C'est quoi ses revenus ? Il est au chômage ?
Je ne sais pas. Il a fait de l'intérim. Peut-être que l'intérim lui paie avec le chômage les quelques mois où il ne travaillera pas. Je ne sais pas. Nous, on ne cherche pas des jeunes qui ont un CAP de quelque chose. On cherche des gens qui savent qui ont envie de travailler, qui savent un minimum de logique, faire un peu de ciment, tenir un niveau, un peu de logique de travaux manuels. Mais après ça, ça roule tout seul.
Ce qui est difficile, c'est de faire des généralités. Par exemple, dans notre métier, objectivement, je trouve que c'était plus facile de commencer ce métier en 88 quand je l'ai fait, que de le commencer pour les plus jeunes aujourd'hui. Parce qu'il y avait moins de...
Le problème, il a toujours existé pour moi, je pense, depuis quelques années. Sauf qu'on était vraiment... Il n'y avait pas autant de travail que ça. Depuis le Covid, dans le bâtiment, les particuliers ont aménagé chez eux d'une façon... Il y a des chantiers qui ont été décalés, qui maintenant sont à faire. Tout le monde a du travail. Moi, j'ai vu arrêter des intérimaires et appeler des confrères qui étaient dans d'autres métiers, leur dire « Écoute, j'ai arrêté un tel, il est très très bien, je ne peux pas le garder, ça m'embête, prends-le. » J'ai vu faire ça. Là, c'est terminé. On trouve un jeune, on se dit « C'est peut-être pas mal celui-là, hein. Il est peut-être pas mal. Hein. » Et en fin de compte, non.
Merci Yann. Jean-Michel est là. Alors Jean-Michel est restaurateur et c'est un domaine, paraît-il, qui est en crise ou qui est sinistré pour recruter. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
C'est vrai ?
Eh oui, bah oui, c'est un domaine, c'est très très compliqué, très très compliqué.
Pourquoi ?
Je dirais, parce que on fait trop de social en France. Le social tue l'envie de travailler, ça c'est clair.
Ça
veut dire que c'est trop facile de travailler 2 mois, 3 mois et puis de s'arrêter pendant 6 mois.
C'est pour ça qu'il y a une réforme du chômage qui est mise en place.
Mais qui n'est pas encore en place, donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'écoutais tout à l'heure le restaurateur là, qui donnait, je donne 2000 euros brut à mon... Je ne sais pas si c'était son chef ou quelqu'un qui travaillait pour lui. Aujourd'hui, on a un gros problème en France qu'on n'a pas à l'étranger, parce que je bosse aussi un peu avec l'étranger. On a beaucoup trop de charges. Aujourd'hui, vous donnez...
Elles ont baissé, les charges.
1500 euros net à quelqu'un, il vous coûte réellement 2500 euros. C'est juste impossible. Moi, si j'étais futur président de la République, ce que je proposerais, c'est que ça ne coûte pas plus cher à la société qui l'emploie, mais que le salarié, on puisse lui donner 200, 300 euros de plus par mois pour pouvoir s'en sortir, puisqu'il y a quand même plus de 1 million ou 2 millions de Français qui ont du mal à finir les 30 derniers jours du mois. Donc si on réduisait les charges et qu'on les limitait à ce qu'elles sont sur le reste de l'Europe, Pologne, Bulgarie, République tchèque, ces pays-là, même Allemagne, on n'aurait pas ce genre de problème. On aurait des gens qui gagnent bien leur vie, qui génèrent de la TVA parce qu'ils vont acheter avec ces 200, 300 euros de plus, peut-être un téléviseur, peut-être un nouveau canapé, peut-être ils vont pouvoir se payer le loyer ou le prêt et faire un investissement immobilier, peut-être que voilà. C'est tous des dommages collatéraux qu'on a à mettre bout à bout pour calculer vraiment ce que ça coûte.
Non, mais c'est vrai que les charges à l'employeur sont importantes en France. C'est vrai qu'elles ont baissé sous le quinquennat Macron, mais c'est vrai qu'elles sont trop importantes. Vous l'avez dit, ça coûte 2500 euros, bien sûr.
Mais bon,
c'est notre système, c'est notre système français qui est comme ça. La pause et on revient.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Laurent Tessier toujours.
Les Français veulent-ils encore travailler ? C'est la question qui vous fait réagir au standard. Pas si sûr, selon ce restaurateur, qui ne trouve pas le personnel suffisant.
Il n'y a pas assez de différence entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Nous, on est dans des salaires à peu près de 1500 euros, nourris, logés, blanchis. Si on a 1300 euros au chômage, on n'a pas trop envie de revenir au travail. Les gens, pour moi, n'ont plus envie de travailler.
Alors, les salaires sont-ils le premier point de blocage ? Comprenez-vous, celles et ceux qui ne souhaitent pas postuler à des offres. Écoutez l'avis de David Guiraud, le porte-parole jeunesse de la France Insoumise, invité de RTL ce matin.
Dans la restauration, les gens ont eu raison de ne pas postuler, puisque le fait que dans la restauration, ça, on manque de bras, eh ben, force les employeurs à se dire « mais c'est peut-être parce qu'on paye mal les gens, en fait !» Et c'est parce qu'on paye mal les gens qu'il y a certaines filières qui ne sont pas attractives. Mais moi, je le dis, mais c'est très bien que les gens ne se laissent pas marcher dessus aussi.
Pour Sophie Menton, présidente du mouvement patronal éthique, on ne peut pas pointer du doigt le comportement des chefs d'entreprise.
Les entreprises aimeraient bien payer plus leurs salariés. Est-ce que vous imaginez qu'on n'a pas envie de les payer plus ?
Ouais.
Je veux dire, mais non, vous avez totalement tort.
Dans la restauration ?
Mais mais oui, vous avez tort. Pour la bonne raison qu'un salarié bien payé, il est fidèle, il vient beaucoup plus gaiement au boulot, il est plus efficace, etc. Le problème, il est que quand vous donnez 1000 balles de plus, vous avez 800 euros dans votre poche si vous travaillez chez moi, et ça m'en coûte 2100. Donc c'est juste là le problème. C'est qu'on a un coût du travail terriblement élevé, et que pour payer plus les salariés, il faut un coût du travail moins élevé.
Les Français veulent-ils encore travailler? 3210, 3210.
Elle exagère un peu quand elle donne 1000 euros à un salarié, ça ne lui coûte pas à elle 2100. A priori, il y a 50% de charges pour l'employeur, sauf erreur de ma part. Jean-Michel est restaurateur, il reste avec nous, mais Franck, qui a pris tout à l'heure la parole et qui est transporteur, Charlotte, qui est étudiante à Nice, voulait répondre à Franck. Charlotte, qu'est-ce que vous voulez dire à Franck qui semblait dire que votre génération est moins engagée dans le travail ?
Alors, on est engagé, on veut travailler, on veut devenir indépendant et pouvoir vivre de nos propres moyens. Malheureusement, de plus en plus d'employeurs demande à avoir de l'expérience, un minimum de 3 ans, 4 ans, forcé de savoir que nos études ne nous permettent pas d'acquérir de l'expérience parce qu'elles nous demandent trop de temps. Et donc, on nous demande de l'expérience, mais en même temps, comment on peut acquérir de l'expérience si personne ne nous en donne l'opportunité?
Ça, c'est pas faux. Vous êtes dans quel secteur, Charlotte?
Alors, moi, par exemple, je suis dans tout ce qui est la culture, le patrimoine, et les arts vivants. Mais par exemple, j'ai une amie qui est éducatrice dans un foyer, qui est stagiaire, qui voudrait travailler plus qu'elle ne... Mais elle est payée, ça rejoint un peu la question du salaire, c'est qu'elle est payée rien du tout. Je crois qu'elle est aux environs de 300 euros et elle travaille 35 heures. J'ai une autre amie.
Et pourquoi elle est payée 300 euros en travaillant 35 heures? Parce qu'elle est en stage, elle est en alternant.
Elle est considérée comme stagiaire.
Oui, donc, quel âge elle a?
Elle a 22 ans.
Ah bah oui, mais à 22 ans, peut-être que c'est la procédure d'être stagiaire. Tu vas pas tout de suite gagner... passer par la case stagiaire avant d'avoir ou un CDD ou un CDI.
Bien sûr, mais comment vous voulez que ça donne envie qu'on soit...
Ah Charlotte, je suis pas d'accord avec vous. C'est déjà une chance d'avoir un stage. Hein. Là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que quand tu sors de l'école, que tu as une période de stage... C'est une manière d'apprendre. En fait, t'es toujours à l'école, mais l'entreprise te permet d'apprendre peut-être plus vite. À 22 ans, elle aurait 26, 27, je ne dirais pas ça, mais à 22
mais
ans...
Elle est encore à l'école, là. C'est
un stage qui est dans le cadre de son école.
Oui, bien sûr.
Mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Vous dites, qu'est-ce qui donne envie?
Je prenais son exemple à elle, mais j'ai d'autres amis qui, elles, par exemple, sont dans la vente de luxe, etc. Mais on leur demande de l'expérience, qui, elles, sont diplômées. Mmh. On leur demande de l'expérience dans ce milieu-là. Mais comment vous voulez qu'elles en acquérissent si on ne leur donne pas la possibilité? Même moi-même, dans le milieu de la culture, on nous demande énormément d'expérience. Mais comment on fait pour en acquérir?
Qui vous demandent de l'expérience à 23 ans, c'est bête. Voilà, c'est imbécile. C'est-à-dire que, par définition, on prend des gens qui ont un potentiel, qui vont grandir dans l'entreprise, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 23 ans d'avoir de l'expérience. C'est idiot. Donc la personne qui vous dit ça, Charlotte, faut lui dire que ça n'a pas de sens. On a tous été jeunes et on est là. On prend les jeunes générations, on les aide à grandir, et puis comme on a fait avec nous, et puis voilà, c'est le chemin de la vie.
Bien sûr, et on ne manque pas de motivation, c'est pas par manque de motivation, et ça, je suis pas d'accord, parce que la génération, au contraire, on en a...
Bon, par exemple, vous êtes prête à travailler le samedi,
demande... Moi, je travaille demain.
D'accord, très bien. Le dimanche, pareil. Les jours de fête, il n'y a aucun souci, vous êtes prêt, vraiment vous... écoutez, Franck, vous voyez, Franck, faut pas généraliser, en fait, parce que difficile dans ces discussions, faut éviter de généraliser.
Oui, je durcissais le trait. Mais moi, quand j'entends tous ces gens qui se plaignent, mais c'est vrai, à un moment donné, si vous n'êtes pas content de votre sort, mais vous vous prenez à main tout seul, comme un grand, et vous arrêtez de gendre sur votre sort.
Bon, en même temps, je dis qu'il ne faut pas généraliser. C'est vrai qu'il y a une certaine tendance. Par exemple, je reçois un petit message de quelqu'un qui a été dans le management et qui dit les premières alertes, ça a été les week-ends. Les deuxièmes alertes, ça a été les vacances à la carte. Et les troisièmes alertes, ça a été l'horaire au quotidien. Et c'était dans une entreprise de presse, manifestement. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui... on va quand même vers des sociétés qui travaillent moins. C'est le sens de la vie. Entre Germinal, où on travaillait du lundi jusqu'au dimanche midi, C'était ça, hein, il y avait que le dimanche après-midi.
Bien sûr.
Bon, les sociétés travaillent de moins en moins pour développer du temps libre. Voilà.
Ça, oui, mais Monsieur Pro, tout à l'heure, vous disiez que vous régaliez dans votre boulot.
Oui.
Mais moi aussi, je me régale.
Oui, mais moi, c'est une chance. Tout le monde n'a pas ma chance, Franck.
Mais alors, écoutez, ceux qui se plaignent de leur travail, oui, ils se prennent à main tout seuls.
Mais
comme
Franck,
des
vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça, la vie.
Ça ne se passe pas comme ça.
Mais alors vous ne vous plaignez pas. Alors, c'est que
mais
tout Franck, va bien et vous ne vous plaignez
mais
pas.
Vous savez, non, là, vous êtes trop dur.
Oui, vous êtes dur. Vraiment,
je veux dire, dans un parcours professionnel.
Je suis né à 70 au fin fond de la Lozère. À Franck, 70, il n'y avait pas l'eau courante chez moi. Franck. Il a fallu qu'on travaille pour s'en sortir.
Franck, dans un parcours professionnel, il y a le travail, bien sûr, il y a le talent, pourquoi pas, mais il y a parfois un peu de chance, un peu de réussite, un peu de hasard. Vous pouvez
mais
pas...
dans votre travail, vous faites des rencontres qui peuvent changer votre vie.
Mais je veux dire, moi, tous, nous avons eu parfois des coups de dés qui ont fait que notre... parfois, ça s'est bien passé ou au contraire mal passé. Vous ne pouvez pas être aussi dur sur ceux qui sont en échec ou qui se plaignent. En revanche,
mais
là où vous avez raison, c'est que s'ils se plaignent, il faut...
Je ne peux plus l'entendre. Je ne peux plus l'entendre.
Mais vous généralisez. Bien sûr que si, il y a des gens qui ont le droit de se plaindre quand ils font un travail qui leur plaît pas, mais qui sont obligés de le faire.
Alors, ils se prennent à main tout seuls. Ils montent une petite entreprise, ils sont auto-entrepreneurs, mais ils arrêtent de se plaindre.
Vous savez comment faire ça, les charges?
Mais madame, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, alors venez m'expliquer la musique. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils veulent... Nous, ils veulent la musique sans payer l'orchestre. Mais le bon sens payant, c'est celui qui paye l'orchestre, qui choisit la musique. Vous comprenez ça?
Allez dire ça aussi alors aux élèves infirmières qui se plaignent de leur travail, mais qui continuent à le faire pour sauver des vies.
Ah mais moi je suis très admirative de ces gens-là. Et souvent, ceux qui travaillent le plus dur, ce n'est pas ce qui se plaignent.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, Franck, c'est la vérité doit être à mi-chemin. C'est vrai qu'on a tous une part de responsabilité dans la vie que nous menons. Ça, c'est sûr. Bien évidemment, il ne faut pas enlever la part de responsabilité. Bon, parfois, les choses sont peut-être un peu plus complexes que vous ne le dites. Alors, monsieur Olivier.
Oui, je suis là.
C'est vendredi.
That's
good, it's Friday.
Ah, vous êtes bilingue.
Eh oui, c'est vendredi. Que va-t-il se passer ce week-end, Olivier?
Vous voulez le savoir tout de suite?
Oui.
Eh bien, écoutez, Pascal, même moi, je ne sais pas encore. Donc, c'est pour vous dire. Si. Et vous savez quoi? À chaque fois que j'ai prévu quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Alors maintenant, je laisse le destin me prendre en main. Le hasard, Pascal. Eh ben, on parlait de chance et de réussite.
J'espère que le destin, non seulement vous prendra en main, mais vous embrassera.
Ah, j'espère qu'il m'embrassera.
Vous voulez qu'on marque une pause et qu'on revienne tout de suite après pour Facebook?
Allons-y.
A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler pour parler d'autres sujets. Va-t-on assister à un nouveau second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? C'est ce qui pourrait arriver selon le dernier sondage BVA pour RTL et Orange. Et une tendance est très claire.
Oui, et ce qui saute aux yeux, c'est l'extrême droite. Elle grossit encore de 4 points depuis notre dernière enquête du mois d'octobre. Plus 2 pour Marine Le Pen, autour de 19%. Plus 2 pour Éric Zemmour, autour de 15%. Réunis, ils rassemblent maintenant plus d'un tiers des électeurs. Mais individuellement, ils restent loin d'Emmanuel Macron, toujours stable, un peu en dessous de 30% des voix.
La France est-elle de plus en plus à l'extrême droite? Que signifie d'ailleurs pour vous ce terme? 32-10, 3-2-1-0.
Donc, monsieur Olivier, après cette annonce du week-end qui
Exactement.
Nous intéresse, revenons aux choses plus sérieuses.
Oui,
peut-être.
Parce que ça me représente bien aussi le sérieux.
Bien sûr.
Exactement. Sur nos réseaux sociaux, Pascal, sur la main-d'œuvre, Didier pose une question sur notre page Facebook. On manque de main-d'œuvre ou de courageux dans notre société? Pour Anne-Marie, ce n'est pas de la faute des Français s'il y a des métiers qui n'attirent plus, qui ne font pas rêver. Et on termine avec Yannick. Les jeunes sont aujourd'hui tous des flemmards. Voilà, ce sont ces mots.
Oui, mais faut. Moi, on a toujours entendu ça, donc c'est toujours pareil. Les jeunes, et puis les grands sont comme ci, puis les petits sont comme ça. Et puis non, faut éviter de généraliser. En revanche, il y a des tendances. Ce qui est vrai, c'est que les Français travaillent moins aujourd'hui qu'ils ne travaillaient, que ne travaillaient sans doute nos parents et que ne travaillaient nos grands-parents. Ça, c'est une réalité. Dans les campagnes, on travaillait plus. Et comme la France était rurale avant les années 40, les gens travaillaient du lundi au dimanche, 365 jours sur 365. C'était une réalité. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Charlotte et Jean-Michel, je vous remercie. Sauf si Jean-Michel, qui est restaurateur, a un petit mot à ajouter.
Je veux bien rebondir sur ce qui se disait ce matin par les invités de FO et tout ça. C'est eux qui ont la solution dans le problème, en fait. D'un côté, on a des gens qui veulent être mieux payés, et de l'autre côté, on a des gens qui veulent moins payer de charges. Je crois qu'on a, l'équation, hein. Il faut absolument arriver à ce que limiter ces charges à une fois et demie le net. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de donner 300 euros de plus à mon salarié. Ça attirerait, je pense, beaucoup plus de vocations, parce que qu'est-ce qui attire dans le travail? C'est l'argent. Il n'y a pas autre chose. Il y a
mais
les vocations,
ça
c'est
une
chose. Mais il y a aussi l'argent. Il y a aussi l'argent qui vous fait avancer.
Il y a aussi, mais pourquoi, par exemple, dans la gendarmerie, certains veulent être au raid et alors qu'ils seront payés le même prix que celui, le même salaire que celui, par exemple, qui est au bout de la rue? Parce que tu as une appartenance au corps d'élite. Parce que c'est prestigieux. Donc c'est très important. Je vous assure, à salaire égal, parfois, tu as envie d'autres choses. Il n'y a pas que l'argent, précisément. C'est très important, l'appartenance à l'entreprise. C'est pas la même chose, forcément. De moins en moins,
sincèrement. Aujourd'hui, le salarié a beaucoup plus de droits qu'il a de devoirs, sincèrement. Et ça, c'est vraiment le problème, vraiment. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de donner plus d'argent à mes salariés, mais il ne faut pas que ça me coûte davantage. Ça, c'est l'adéquation.
Non, mais vous l'avez dit, c'est vrai que les charges sont lourdes en France. Bon, merci
aujourd'hui,
en tout cas, vous êtes toujours à Lyon.
Je suis toujours à Lyon.
Mais quel restaurant,
juste un dernier point, Pascal. Oui. Un dernier point, Pascal. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des pénuries, parce que je suis aussi dans le bâtiment avec une autre société, on a des pénuries de tout. Pourquoi? Parce qu'on a tout délocalisé. Pourquoi on a délocalisé? Parce qu'on n'est pas compétitif. Pourquoi? Parce que nos charges sont trop élevées.
Oui, c'est pas vrai. Pardonnez-moi, parce que vous pouvez, écoutez, mais vous serez jamais compétitif avec des Chinois qui vous sortent un maillot à 2,50 €.
Je parlais pas de la Chine, mais d'autres pays européens.
Là, si vous voulez se faire travailler tout le monde en les payant n'importe comment, en Inde, en Chine, forcément, vous serez jamais compétitif.
Moi, je veux les payer plus.
Oui, mais vous dites qu'on n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Il y a des pays qui sont en dehors de toutes les règles. L'Inde ou la Chine, c'est compliqué de les concurrencer, vous le savez bien.
On est bien d'accord.
Merci en tout cas. Vous êtes. C'est quel type de restaurant? C'est brasserie, grande gastro?
Non, c'est traditionnel, cuisine familiale beaujolaise. On est sur le haut du Beaujolais.
Combien le repas moyen chez vous?
C'est 25 euros à peu près.
25 euros sans les vins ou avec les vins?
Sans le vin.
Sans le vin.
Sans les vins. Ouais.
Que me dit Damien Béchiot? Ah, le Beaujolais nouveau, me dit Damien Béchiot.
Un très bon Beaujolais nouveau.
Bon. Mais Lyon, c'est la ville d'Olivier, donc vous pouvez le recevoir.
On est à 15 km de Beaujolais, exactement.
D'accord. Il est bon, le Beaujolais?
Il est très, très bon.
D'accord.
Très, très bon. Vraiment.
Il est toujours bon. Chaque année, on me dit qu'il est bon.
Sans chauvinisme, aucun. Non, il est vraiment différent.
Et c'est quoi la spécialité de votre restaurant?
Très bon cru. Blanquette de veau, vraiment des
trucs légers,
vraiment des trucs du coin. Là, vraiment du familial, très très familial.
Merci beaucoup Jean-Michel. Charlotte, bon week-end. Qu'est-ce que vous faites demain, Charlotte? Vous qui avez 23 ans, vous avez dit que vous travaillez demain. Vous faites quoi?
Demain, je fais hôtesse au Galeries Lafayette.
Alors ça c'est bien. Alors vous accueillez les clients?
Ouais.
C'est génial, ça.
Un jeu concours, d'ailleurs, si vous participez, c'est dans toutes les galeries Lafayette de France. C'est un jeu concours pour dire.
Oui, alors faites pas de pub parce que autrement je vais me faire ennuyer. Mais alors, vous y êtes pendant combien de temps?
Demain et samedi dans une semaine.
Combien de jours demain?
Deux jours.
Deux jours, vous allez gagner combien pour deux jours?
Je peux pas le dire. J'ai pas le droit de le dire.
Ah bon, alors ne le dites pas. Et alors, vous êtes payé à la fin du mois ou vous êtes payé le jour même?
Je suis payé à la fin du mois, oui.
D'accord. Bah écoutez, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien.
On est motivé, on essaie de trouver du travail.
Et puis c'est sympa en plus. Attendez.
Ah oui, c'est super.
Plutôt que d'être devant sa télévision à rien faire.
Ah bah c'est clair, puis on a beau temps dans le sud, donc ça va.
Bon, il y a toujours beau temps dans le sud.
C'est ça.
Olivier, lui, est Père Noël ce week-end dans une grande surface.
Donc vous et même toute l'année. Hein. Je suis un petit peu votre lutin finalement, Pascal. Hein.
Et Père Noël. Bon, vous ne passerez pas dans le grand magasin où Charlotte est à Nice.
Bah, pourquoi pas? Bah,
oui, parce que vous êtes à Paris, cher ami.
Vous êtes le bienvenu, Olivier.
Ah, merci.
Ah, faites attention, Charlotte, vous ne connaissez pas Olivier.
Il est capable de le faire. Hein.
Ah, il est capable de prendre le chemin de fer.
J'arrive.
J'arrive. Bon.
Bonne journée, Pascal. Bon week-end.
Bah non, mais c'est gentil en tout cas, Charlotte. Et puis votre voix, votre énergie. L'important, c'est l'énergie. Je vais vous dire. Oui. Il n'y a qu'une chose qui est importante dans la vie. Hein, c'est l'énergie. Il est.
Merci, Pascal.
13h38. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier toujours.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard et sur nos réseaux sociaux. L'Autriche va confiner dès lundi l'ensemble de sa population. Le chancelier autrichien a décidé aussi ce matin de rendre la vaccination obligatoire.
Nous avons pris la décision d'imposer la vaccination au niveau national. Cela entrera en vigueur le 1er février 2022. Nous ne voulons pas de cinquième vague. Le virus ne s'en va pas. Il reste. La vaccination, c'est notre porte de sortie.
65% des Autrichiens sont vaccinés. 2 millions ne le sont pas actuellement. En France, Emmanuel Macron assure notamment que le confinement de personnes non vaccinées contre la Covid-19 n'est pas nécessaire. Qu'en pensez-vous ? Doit-on prendre de nouvelles mesures pour lutter contre cette cinquième vague ? Nous attendons vos avis dès maintenant au 3210.
C'est vrai que ça nous interpelle ce qui se passe en Autriche. On se dit, est-ce que c'est possible en France ? Même si il semble que Gabriel Attal et le porte-parole du gouvernement, mais aussi Emmanuel Macron, ait laissé passer les messages comme quoi on n'était pas forcément concerné. En revanche, cette élection présidentielle qui arrive, elle peut une nouvelle fois tourner un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les sondages mettent ou placent Emmanuel Macron largement en tête. Pour le moment, c'est toujours 25, 26. Marine Le Pen, c'est généralement 17, 18, 19. Et derrière, Éric Zemmour, c'est 13, 14, 15. Ce qui fait que le bloc des conservateurs, des réactionnaires, certains disent extrême droite, d'autres populistes, ce bloc-là, en France, c'est 35 points aujourd'hui, ce qui est du jamais vu. Alors, nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Pascal.
Votre sentiment sur cette présidentielle qui arrive ?
Alors bon, juste un petit mot sur Olivier, qui est un homme charmant. Voilà, je voulais le lui dire.
Olivier, notre ami Olivier de Facebook.
Bien sûr.
Mais il est magnifique, oui, Olivier. Oui, c'est une belle personne.
Voilà, un petit aparté. Moi, ce que vous voyez, je soutiens Éric Zemmour et j'ai été choqué de ce qui s'est passé sur votre plateau ce matin. Vous voyez, c'est pour ça, en gros, que je me suis engagé auprès d'Éric Zemmour pour éviter de ce qui s'est passé.
Alors, ne parlons pas de ce qui s'est passé, parce que tout le monde n'a pas vu ce qui s'est passé sur une autre antenne. Je vous propose de rester sur RTL.
Oui, tout à fait. Mais enfin, voilà, on se comprend et vous comprenez pourquoi mon engagement. Moi, j'estime effectivement que Marine Le Pen n'arrivera pas. Et bon, alors, cet épisode, effectivement, où Éric Zemmour chute un petit peu dans les sondages, mais bon, faut voir un peu les choses en face. On l'a prévenu, il se fait taper dessus, ça c'est clair, tout le monde lui a dit, mais c'est pas pour ça qu'il s'arrête et qu'il va s'arrêter. Au contraire.
Mais convenez qu'il a peut-être fait des erreurs.
Non, je ne crois pas. Je le crois pas.
Bah, vous ne pensez pas que c'est une erreur, par exemple, ce qu'il a dit sur les enfants sans de l'air?
Alors, effectivement, on fait de la sensiblerie et la sensiblerie.
Ah non, c'est pas de la sensiblerie, si vous me permettez. Moi, j'ai été choqué par ce qu'il a dit. Je suis pas particulièrement sensible, mais d'expliquer que les enfants sans de l'air ne sont pas français et parce qu'ils sont enterrés en Israël, ça s'appelle pas de la sensiblerie, si vous me permettez.
Alors, sur le fond, effectivement, comme Madame Ornella, il faut comprendre les choses. Maintenant sur la forme peut-être qu'effectivement, mais sur la forme
vous touchez les gens, vous les peinez genre, même oui, monsieur Sandler il était peiné alors, ses petits-enfants sont morts sur le sol en France et vous lui expliquez qu'ils ne sont pas français. Je pense qu'Éric Zemmour a fait une erreur.
J'entends ce que vous dites. Alors déjà, c'est un être humain, Éric Zemmour, d'accord, il parle avec son cœur. Et effectivement, quand il aborde le sujet et ce sujet-là, il dit effectivement bon.
Bah oui, mais je vous pose la question. Vous dites, je ne pense pas qu'il a fait une erreur. C'est peut-être ce qui montre qu'il a un peu baissé, peut-être. De la même manière, est-ce que c'est opportun d'aller faire un point presse le 13 novembre au Bataclan? Je vous pose la question. Est-ce que c'est opportun?
Mais c'est pas évident pour quelqu'un comme lui, effectivement, qui arrive dans la politique, d'essayer de faire comprendre ce qu'il ressent au plus profond de lui-même.
Mais c'est pas ma question.
Non, mais j'entends bien. Ok, il y a des maladresses. Très bien.
Oui, mais okay. C'est ça qui peut expliquer peut-être un petit recul. Il faut toujours être prudent. Mais...
Non, mais j'entends bien. Je veux pas le défendre bec les ongles. Et d'ailleurs, il s'en est expliqué. Il a été voir. Il a appelé M. Sandler pour s'excuser.
Tout à fait.
Donc, vous voyez que.
Pour s'excuser, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour.
Pour lui expliquer, s'excuser. Si, effectivement.
Bah alors donc, c'est qu'il a fait des erreurs. Vous-même.
Non, il s'est. Bon, écoutez, j'étais pas avec eux, mais je pense qu'effectivement il a pu s'expliquer, se dire voilà, je l'ai dit dans ce sens-là et pas pour vous blesser. Enfin, je veux dire, vous connaissez Éric Zemmour depuis des années.
Mais Thierry, moi, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis reconnaissant à Éric Zemmour de parler de choses que les Français veulent entendre et de mettre sur la table des problèmes qui ne sont pas toujours, abordés. Donc, je ne peux pas être suspect là-dessus d'être, d'être un anti-Zemmour primaire, si j'ose dire. En revanche, pourquoi est-il entré en campagne ? L'argument numéro un, c'était de dire Marine Le Pen ne peut pas gagner. Bon, mais j'ai envie de dire cet argument, je le retourne sur lui aujourd'hui. Il ne peut pas gagner. Bah, les deux ne peuvent pas gagner seuls.
Bah, écoutez, on va attendre la suite. Hein. La date est encore lointaine. On va attendre la suite de voir ce qui se passe. Maintenant, moi, je suis certain que les erreurs qu'il aurait faites, il les a faites, on va dire, d'un cœur positif. Il les a pas, il y a aucune négativité là-dessus, il y a aucune haine, il y a aucune, c'est quelqu'un.
Vous entendez pas ce que je vous dis, l'argument.
J'entends ce
qu'il peut, vous êtes pro Zemmour, tant mieux, mais il peut pas gagner tout seul.
Non mais je suis pro, pourquoi?
Mais non mais ça, vous avez le droit, mais
non mais c'est pas que j'ai le droit. C'est que je, comme un bon nombre de personnes aujourd'hui qui sont pour cette parole vraie. Avec le cœur.
Mais j'entends ce que vous dites. Le cœur, manifestement. J'entends ce que vous dites, mais l'argument, je fais de la politique purement politicienne. Cet argument qu'il disait à Marine Le Pen, je lui renvoie à lui. Il ne peut pas gagner tout seul.
Et moi, je vous dis que la campagne est loin d'être finie, qu'il n'est pas encore, qu'il ne s'est pas encore présenté réellement. Et quand il va
se présenter
réellement.
Vous pensez qu'il peut être, le meilleur candidat, de deuxième tour et qu'il peut gagner?
Moi, je vous dis clairement que, effectivement, quand il va être réellement candidat et qu'on va vraiment l'inviter sur les plateaux pour débattre de tous les sujets, et notamment social, il va pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Et je suis certain qu'à partir du moment où il va se présenter, il va dépasser Emmanuel Macron. C'est certain. Parce que les Français n'en peuvent plus, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'en peuvent plus de voir cette gauche caviar.
Mais Thierry, moi j'entends tout ce que vous dites, mais les Français n'en peuvent plus. Mais il y a 25%. Vous dites en fait les choses, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous dites les choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Les Français n'en peuvent plus. Peut-être, mais Emmanuel Macron est à 25 points ou 26 points.
Parce qu'effectivement, à mon sens, les personnes, les 24% ou les 23 ou les 24%, c'est des personnes qui se mettent derrière les chaînes d'infos, pas vraiment comme la vôtre, j'avoue franchement, mais et qui écoutent matin, midi et soir les chaînes d'infos mainstream. Donc forcément, effectivement, ils sont derrière Macron. Mais quand vous entendez, quand vous entendez réellement ce qui se passe derrière et comment Emmanuel Macron dirige la France depuis presque 5 ans, comment on peut le dire? Comment on peut être faire partie de ces 23 ou ces 24%? Comment
c'est
possible? Bien sûr que c'est leur choix. Mais bien entendu que c'est leur choix. Mais attendez un petit peu qu'effectivement Éric Zemmour remonte un petit peu.
De la France n'en peut plus.
Et précise ses pensées. Précise ce qu'il veut faire pour la France.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'une partie de la France effectivement déteste Emmanuel Macron, comme peut-être rarement un président de la République a été détesté.
C'est
possible. Mais dites une partie, une frange. Mais manifestement, convenez aussi, et c'est toute la difficulté de cette élection, que en fait c'est un pays morcelé. C'est un pays éclaté beaucoup de Français vont se retrouver sans doute, des Français peut-être qui vont bien d'ailleurs, derrière Emmanuel Macron.
Oui, mais regardez, vous êtes un des seuls dans la presse, à essayer d'avoir du bon sens. Monsieur Pascal Pro, vous le savez très bien, les Français de vous, d'accord, vous êtes un des seuls.
Mais non, il y a plein de...
Vous êtes un des seuls. Non, monsieur Pascal Pro, soyons raisonnables.
Oui, je vais me présenter. Vous voterez pour moi si je me présente ou pas?
Il ne s'agit pas de vous présenter. Il s'agit simplement de faire votre métier avec cohérence et bon sens. Et le bon sens que j'ai.
Le bon sens, on pense toujours qu'on l'a et que les autres l'ont pas. Hein, ça, c'est la
base. Regardons un petit peu ce qui se passe et on le dénonce de temps en temps sur les autres chaînes de télé, sur les autres radios. Ça ne passe pas, son discours ne passe pas. On lui tape dessus matin, midi.
Ça, c'est encore autre chose, c'est contre-productif. Thierry, merci. Mais vous avez raison, c'est pas normal. Alors, pour le coup, je vais vous dire franchement, quand je vois parfois comment il est attaqué, j'ai effectivement plutôt envie de le défendre dans ces cas-là. Vous avez raison, mais c'est l'univers médiatique en France, c'est comme ça. Bon. c'est comme ça, vous avez eu, c'est intéressant d'ailleurs, mais je crois que ça sert à rien surtout, c'est complètement contre-productif. Merci beaucoup Thierry. De toute façon, moi j'ai toujours envie de défendre ce qu'on attaque et d'attaquer ce qu'on défend. Donc comme ça, c'est un peu primaire, un peu enfantin. Mais finalement, c'est une bonne définition des journalistes. On devrait être un peu anard de temps en temps. On devrait être d'aucun camp, monsieur Jean-Alphonse Richard.
Moi, je suis aussi d'accord.
On devrait être d'aucun camp. 13h51, on marque une pause. On parlera de l'heure du crime. C'est vendredi. That's good, it's Friday. Comme vous le savez, Damien Béchiot, on pourrait peut-être écouter une petite chanson. Une petite
on
chanson.
Va en écouter une, Pascal.
Non, mais pour Olivier Trouve, une chanson qui symboliserait son week-end. En v'là du slow.
C'est Olivier
en
qui
v'là.
La trouve pour lui-même
J'ai envie de dire une chanson qui symboliserait ce que sera son week-end. Vous connaissez de Michel Jonas ? En v'là du slow, en v'là. Et c'est du bon, croyez-moi. 13h52, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
En v'là du slow, en v'là. Et c'est du bon, croyez-moi.
Voilà, voilà ce que sera peut-être le week-end. Laurent Tessier.
Ah, il s'annonce sympathique ce week-end alors. Vivement ce soir. On en parlait hier en fin d'émission. La ville de Bordeaux vient d'interdire la cigarette aux abords des écoles maternelles et élémentaires. Le maire Pierre Urmic parle d'une mesure de protection. L'arrêté municipal prévoit l'interdiction de la cigarette dans un périmètre de 50 mètres autour de l'entrée des écoles de la ville. Et une mesure qui fait débat parmi les habitants rencontrés par l'un de nos correspondants, Denis Grandjou.
C'est radical. Aux abords des écoles, c'est comme dans les hôpitaux. C'est pourquoi pas.
Mais on est en extérieur, on est quand même libre, on fait ce qu'on veut. C'est aéré, c'est trop radical.
Faut-il interdire la cigarette aux abords des écoles ? 32-10, 3-2-1-0.
Monsieur Jean-Alphonse Richard, alors j'avais proposé...
Monsieur Pascal.
J'avais proposé donc pour l'heure du crime un sommaire que vous nous annoncez à 14h30.
Et voilà, donc le sommaire aujourd'hui, c'est l'histoire d'une double voire d'une triple vie. C'est toujours fascinant ça, les doubles, les triples vies. Et celle de l'assureur de Arras, Jacques Euzel, est... complètement extraordinaire. Il y a 13 ans, presque jour pour jour, en 2008, il disparaît. On va le retrouver mort dans la Sambre. On va penser à un suicide. La famille ne va pas du tout croire à un suicide, mais la famille va mener l'enquête, puisque la justice se désintéresse de ce cas qui paraît d'une grande banalité. Et elle va trouver un monde stupéfiant, un monde parallèle, une vie parallèle. Elle va trouver beaucoup d'argent qui a disparu sur des comptes, quelqu'un qui jouait avec l'argent, qui avait creusé un trou incroyable dans son agence d'assurance. Puis elle va trouver des carnets secrets avec des dizaines de noms de jeunes femmes, jeunes filles, parfois très jeunes, avec leur nationalité. Elle va trouver une ligne de téléphone secrète, etc., etc. Et Madame Euzel, qu'on va avoir tout à l'heure ici dans l'heure du crime, elle sera dans ce studio, explique qu'elle ne connaissait pas cet homme. Elle va découvrir un inconnu. C'est « J'ai épousé une ombre ». Voilà, il n'y a pas mieux comme titre, c'est « J'ai épousé une ombre ».
Qui était un film de Robin Davis.
Exactement.
Il y a très longtemps dans Nathalie Baye.
Dans les vignes du Médoc.
Avec Nathalie Baye, Guy Tréjean, c'est un acteur merveilleux, Guy Tréjean et Francis Huster. Ça doit être un film de 83 ou 84.
C'est un très bon film.
Ça fait penser également à Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman,
oui,
qui aura eu
sûr.
Cette vie absolument incroyable. L'adversaire
mais
est un livre.
Lui a tué. Oui. Roman, il a tué, effectivement.
L'adversaire, qui est un livre incroyable de Emmanuel Carrère. Il est 13h58. Ça va être Aurélia Valadier dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Aurélia Valarier.
Les États européens, face à la recrudescence de la pandémie après Munich, l'Allemagne annonce que tous les marchés de Noël en Bavière sont également annulés cette année. En Autriche, la population sera reconfinée à partir de ce lundi et le vaccin deviendra obligatoire dès le 1er février. Alors même si Emmanuel Macron assure qu'en France, il n'y aura pas de confinement pour les non-vaccinés, les chiffres de la pandémie inquiètent. Par exemple, le nombre de classes fermées à cause du Covid est au plus haut niveau cette semaine. Il y en a plus de 4000 au total. Un enfant de 4 ans est mort ce vendredi dans le Doubs. Ses parents ont été placés en garde à vue. L'enfant a été grièvement blessé sur la voie publique alors qu'il se trouvait avec sa mère. Et malgré la prise en charge rapide des secours, il n'a pas survécu. Pour l'instant, la gendarmerie affirme n'avoir aucune idée sur les circonstances de sa mort. Les chiffres du chômage en France au troisième trimestre, 8,1% en légère hausse selon l'INSEE. Et c'est dans ce contexte que RTL s'intéresse depuis ce matin aux métiers en pénurie de main-d'œuvre. C'est notamment le cas dans le secteur du bâtiment. David Asselin est façadier en Moselle et faute de personnel qualifié dans son entreprise, il a dû monter lui-même sa propre formation.
Nous sommes actuellement 40 personnes fixes dans l'entreprise, mais on pourrait multiplier par deux. On manque des techniciens de façadiers formés. On est même désespéré de pouvoir recruter des façadiers qualifiés. Jusqu'à présent, on s'est débrouillé tout seul. Nous avons formé nous-mêmes par le biais de l'insertion des personnes qui connaissaient aucune base de métier. Mais à un moment donné, bon, on a dit il faut qu'on formalise avec un cahier de charge, avec une formation théorique et pratique. Donc on a créé PFF Academy suite à un réel besoin.
Des propos recueillis par Samuel Goldschmidt pour RTL. À retenir aussi dans l'actualité, l'ONU demande des preuves sur la bonne santé de la championne de tennis chinoise Peng Shuai, disparue après avoir accusé d'abus sexuels un ancien haut dirigeant de son pays. L'ONU demande d'ailleurs aussi qu'une enquête sur ces accusations soit menée en toute transparence. Votre météo cet après-midi, une bonne partie de la France est sous les nuages actuellement. Ça concerne principalement tout le quart nord-est. Sur le reste du pays, il y a du soleil avec des températures comprises entre 7 et 19 degrés. Dans le détail, il fait actuellement 11 degrés à Paris, Bordeaux et Rennes, 14 à Perpignan, 8 à Strasbourg et Vichy, 13 à Cherbourg, 15 à Montpellier et enfin la maximale pour Ajaccio avec 19 degrés. Et on termine avec les courses. Elles ont lieu en nocturne ce vendredi. Départ prévu à 20h15 à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 15, le 14, le 11, le 5, le 12, l'As, le 6 et sa dernière minute, le 5 Fantasia de Ligny. 14h03 sur RTL, je vous redonne le micro. Pascal Praud pour la suite des auditeurs ont la parole.
Exactement, merci beaucoup Aurélia.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On est sur la présidentielle à venir avec ce score de Marine Le Pen qui est toujours assez haut et le score de Emmanuel Macron qui est largement devant pour le moment. On est avec Christopher dans le Haut-Rhin. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Votre analyse de ce qui arrive ?
À l'analyse, comme disait un petit peu à Olivier, c'est que je pense qu'il y a une petite stratégie peut-être qui se fait, on ne sait pas. Hein. C'est que je pense que pour moi, Zemmour, ça ne tient que moi, ne va pas se présenter. Parce qu'il veut faire juste monter un petit peu la sauce. Comme vous avez dit, il dit des choses que les gens pensent tout bas. En général, sur certains sujets, pas surtout. Hein. Essentiellement, je veux dire, il parle beaucoup de sujets sur l'immigration, sur les musulmans, des choses comme ça. Et après, il y a d'autres sujets qui sont peut-être plus importants, mais qui n'en parlent pas. Pas forcément. Et le truc, c'est que là, on voit bien qu'il baisse, parce que on voit bien que c'est assez pauvre de ce qu'il annonce.
Et c'est assez pauvre, dites-vous ?
Pour moi, oui, parce que à part enflammer, dire des choses, je veux dire... Je sais pas, pour moi, il enflamme un peu trop certaines choses. Il grossit peut-être certaines choses parce que tout le monde n'est pas comme ça. Hein, je veux dire, peut-être une minorité, mais c'est comme d'habitude. Hein. Et c'est que le truc, c'est que là, en ce moment, vu que il veut pas se présenter, bon, on sait pas, hein, mais pour le moment, c'est que les gens, je pense, qu'ils s'en lassent. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils baissent et que l'extrême droite, ils montent. Parce que le truc, c'est que lui, si un jour ou l'autre, il veut pas se présenter, l'extrême droite, je pense que pour moi, va monter un peu plus parce qu'il prendra les voix peut-être de Zemmour.
Après, c'est sûr que s'il ne se présente pas, il y aura un transfert, mais pas complètement quand même, parce que Marine Le Pen, les projections sans Zemmour, c'est généralement 26-28, alors que Zemmour plus Marine Le Pen, c'est aujourd'hui quasiment 35.
C'est ça, et le truc, c'est que je pense qu'ils ont à peu près le même programme.
Ils ont... Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est très difficile de qualifier politiquement l'un et l'autre. Plus exactement, je trouve plus facile de qualifier, pour moi, Éric Zemmour, que je pense conservateur et réactionnaire, que Marine Le Pen, qui parfois a dit des choses très différentes. Elle dit par exemple des choses que le Parti communiste pouvait dire dans les années 80 sur le protectionnisme. Donc ça m'est très difficile. Alors il y a ce mot générique, on dit extrême droite. Est-ce que c'est extrême droite? Est-ce que c'est conservateur? Est-ce que c'est populiste? Est-ce que c'est réactionnaire? Est-ce que c'est droite dure, etc. Je trouve que c'est plus difficile peut-être à qualifier les uns et les autres. C'est pour ça d'ailleurs que les journalistes préfèrent dire sans doute extrême droite, qui est un mot générique qui englobe peut-être tout cela. Mais c'est en tout cas pas aussi simple peut-être politiquement de les définir, Christopher.
Non, mais le truc c'est que pour moi, je pense Marine, elle essaie de s'adoucir, donner un peu moins l'image que son père.
Et bah, ça fait un moment ça.
Ah oui, tout à fait.
Mais est-ce que vous diriez, par exemple, que paradoxalement, la candidature Zemmour, en tout cas l'hypothétique candidature Zemmour, a aidé, c'est un paradoxe, Marine Le Pen, elle l'a aidé, à la fois elle lui enlève des voix, cette candidature, mais en même temps elle l'adoucit, cette candidature possible.
Ouais, je pense aussi. Après, le truc, c'est que moi, ce que je pense, c'est que M. Zemmour, je ne le vois pas gouverner. Ça, moi, pour moi, c'est juste un bon une personne qui fait de la propagande, qui aime bien ça, je pense. Pour moi, c'est une sorte de propagande, qui est fort là-dessus. Mais après, pour diriger, je pense qu'il n'a pas la carrure.
Vous savez pour qui vous allez voter, Christopher?
Moi, je suis indécis.
Pardon?
Je vous dis,
indécis.
Je suis indécis.
Est-ce que vous savez pour qui vous ne voterez pas?
Bah déjà l'extrême, l'extrême gauche, de toute façon tout ce qui est extrême, je veux dire, c'est pas forcément bon. Hein, je veux dire, dans une société.
Donc vous allez finir par voter Emmanuel Macron?
Pas forcément. Comme je vous dis, je suis indécis. Peut-être je ne voterai pas, peut-être je voterai. Vous voyez, tout dépend après du programme, hein, vraiment, qu'il y a. Après, c'est vrai que Macron, je pense qu'il a fait certaines choses que certains présidents n'ont pas fait, parce que l'Europe a voulu faire passer certains, je veux dire, lois au niveau, parce que vous voyez, parce que nous, on est dirigé un petit peu par l'Europe, et puis il faut faire passer en force. Et je pense que pour moi, Macron a fait passer certaines choses pour draguer un petit peu l'Europe. Parce que tous nos présidents, ils ont toujours ralenti pour faire passer certaines lois que l'Europe nous obligeait à faire passer. Et là, on voit bien que Macron, il a vraiment, je pense, avec l'Allemagne, avec Mme Merkel, c'était pour s'approcher un petit peu d'elle. Un peu, je pense que c'est un peu stratégique ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on a eu plein de choses, je veux dire, de mouvements avec M. Macron que avec les autres présidents. Après, voilà, c'est moi qui pense ça, mais voilà.
Eh bien, merci, vraiment, merci beaucoup. Et Monsieur Olivier nous attend.
Exactement.
Olivier.
Sur nos réseaux sociaux, Pascal, pour Alain, ces sondages ne veulent rien dire. Ce ne sont que des spéculations journalistiques, nous dit-il. Jean-Noël nous écrit. Ce que j'observe, c'est que les deux candidats du camp national progressent ensemble. C'est ce qu'il faut retenir. Et on termine avec Nathalie. Le jour où Zemmour va se présenter, il va dépasser Marine Le Pen, selon lui.
Bah écoutez, qui vivra verra.
Exactement.
Comme dit l'autre. On a terminé, je pense, ce chapitre politique. Une petite chanson, peut-être, cher.
Oui, Pascal.
Un petit air pour le week-end.
National 7.
Pourquoi National 7?
Olivier a sûrement allé passer son week-end à Nice.
Non.
Et sur l'autoroute, pour une fois.
C'est pas possible.
C'est National. Il a décidé. Je vais aller à Nice, Pascal.
À Nice?
Rejoindre Charles.
Non, écoutez, franchement, je ne sais pas si elle est au courant, quoi, si elle le souhaite surtout.
Ça peut être une surprise.
Ah oui, mais une surprise quand tu vois arriver Olivier, je ne sais pas si c'est le mot qui convient.
Ah bah c'est gentil.
14 sur 9.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va partir pour la Guadeloupe, figurez-vous, parce qu'après 4 jours de blocage de route et de l'accès au CHU de Guadeloupe, parfois émaillé de violence par des manifestants anti-pass sanitaire et vaccins contre le Covid-19, le gouvernement hausse le ton en annonçant l'envoi de 200 policiers et gendarmes en renfort. Je vous lis une dépêche de l'AFP qui est datée d'aujourd'hui et qui a quelques minutes. Nous sommes avec Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous êtes en Guadeloupe hein, en ce moment?
Oui.
Vous étiez en vacances ou vous habitez toute l'année en Guadeloupe?
Non, j'habite la Guadeloupe et je travaille en Guadeloupe.
Alors, dites-nous ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que la situation est très tendue, avec des actes de vandalisme, notamment au CHU. Les barrages routiers pénalisent énormément le personnel qui vient de tous les horizons. Je le lis toujours sur cette dépêche. On est obligé d'attendre que tout le monde soit présent pour démarrer et d'attendre que la relève soit présente pour continuer, a expliqué à l'AFP Anne-Gaëlle Pascal, qui est cadre de santé au bloc opératoire du CHU.
Oui, en fait, depuis 3-4 mois, le samedi, il y a des manifestations en anti-pass. Et lundi, c'était le jour où le pass sanitaire devait être appliqué. Donc depuis lundi, il y a des annonces de blocage. Alors lundi, c'était assez calme en ce sens qu'il y avait des blocages un peu partout en Guadeloupe, mais il y avait moyen de passer. Les gendarmes pouvaient gérer. Et depuis hier, les blocages se sont intensifiés au point que, en fait, les jeunes s'en sont mêlés cette nuit, notamment. Et il y a des barrages, alors qui sont faits avec n'importe quoi. Hein, ça peut être des matelas, ça peut être des électroménagers, des voitures. Et ça brûle tous les 50 mètres à peu près. Ce qui fait que la Guadeloupe, on va dire depuis hier, est totalement bloquée. Et ce qui est un peu choquant, c'est qu'il semble que la manifestation ait échappé aux syndicalistes, aux pompiers, aux soignants qui manifestaient pour obtenir l'abolition du pass.
Exactement, la mobilisation lancée par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 ne faiblit pas. Elle se double désormais de violences commises par des émeutiers, notamment la nuit. 4 immeubles à Pointe-à-Pitre, qui comptent de nombreuses habitations en bois, sont partis en fumée dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ça, c'est les pompiers qui l'ont dit à l'AFP. Donc c'est vrai que c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça a échappé à ceux qui organisaient ces manifestations, Christelle.
Oui, il semble que pour l'instant, ils s'en servent un petit peu. Mais le problème, c'est que toute la Guadeloupe est bloquée. Ça veut dire
Ça veut dire quoi, toute la Guadeloupe bloquée? C'est-à-dire que les routes sont bloquées? C'est-à-dire que le tourisme ne peut plus se mettre en place de manière classique?
Alors, concernant le tourisme, de toute façon, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. On ne peut pas, en voiture, prendre une route, puisque de toute façon, elle est jonchée d'un tas de choses.
Mais toutes les routes.
Tous les 50... Oui, toutes les routes.
C'est ça qui paraît incroyable dans votre témoignage. C'est-à-dire que toute la Guadeloupe est à feu et à sang, selon vous?
Peut-être pas à feu et à sang, mais effectivement, comme les jeunes se sont mobilisés sur toute la Guadeloupe et de manière locale, pour le coup, ce sont plus les manifestants qui gèrent toutes les routes, y compris les itinéraires bis, vous savez.
Mais les jeunes, c'est-à-dire que ce sont des étudiants, ce sont des lycéens?
Alors, on suppose qu'il y a toutes sortes de jeunes. Hein. Il doit y avoir des étudiants, mais il doit y avoir aussi des jeunes qui travaillent, mais qui n'ont pas travaillé hier puisque c'était bloqué. Ils se sont mobilisés. Je pense que le fait que l'État ait réagi et que les gendarmes, les policiers, les CRS ont réagi, à un moment donné, plus personne ne comprend rien et plus personne ne sait qui a commencé.
Je rappelle quand même qu'on envoie 200 policiers et gendarmes. Vous vivez depuis combien de temps en Guadeloupe, Christelle ?
20 ans.
Et vous n'aviez jamais vu ça ?
Non, là, c'est grave. Ouais. On a vécu le LKP en 2009. Mmh. Donc c'était pour les prix et la baisse des prix et puis un travail sur comment on fait les prix ici puisque c'est très cher. La Guadeloupe a été bloquée pendant 40 jours, mais sur les barricades, les gens étaient bon enfants. Ce matin, les infirmiers, les soignants, les médecins ne pouvaient même pas passer.
Selon la direction du CHU, un peu plus de 87% des agents du centre hospitalier possèdent un pass sanitaire, mais certains personnels sont suspendus pour pass non valide, ce à quoi s'ajoute une vague d'arrêt de maladie sur consigne syndicale. Le coupable, c'est celui qui a mis l'obligation vaccinale, dénonce un autre syndicat. Le personnel suspendu à 50%, ça veut dire que ceux qui restent font le travail de deux personnes. Merci de ce témoignage, Christelle, qui effectivement nous inquiète. Merci pour la qualité de ces informations, parce que je pense que dans les prochaines éditions d'RTL, d'ailleurs, on pourra réécouter ce que vous avez dit, parce que vous êtes sur place et ce que vous nous avez rapporté a de quoi nous inquiéter. La pause et on revient quelques minutes.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça...
La ville de Bordeaux vient d'interdire la cigarette aux abords des écoles. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre, qui habite dans l'Ariège. C'est le maire de Bordeaux qui a pris cette décision pour des raisons sanitaires plus que symboliques. D'ailleurs, il considère que la fumée peut incommoder des jeunes gens qui se rendent à l'école. La fumée sur le trottoir, je le rappelle, puisque c'est en dehors c'est dans la rue. Qu'en pensez-vous, Pierre ?
Eh bien, bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Ben moi, ce que j'en pense, comme je disais à votre collaborateur, c'est que c'est une bonne chose en fait, parce que moi, je me bats depuis peu là avec avec des élèves, on va dire, du lycée qui sont proches de la crèche, de là où va mon fils, et ils viennent là, ils s'installent, ils fument des joints, c'est pas des cigarettes, hein, c'est des joints carrément, devant l'entrée de la crèche, et moi, je me bats avec eux
pour les éloigner. Effectivement, ça va fumer un pétard devant une crèche et. Quand même, mais c'est quoi le profil de ces jeunes gens ?
Ah mais c'est des jeunes gens, c'est des jeunes filles pour la plupart, hein, parce que c'est des jeunes filles. Ah si, il y a que des jeunes filles que j'ai eu affaire en fait. Pour
et qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Eh bien, le dernier en date, c'était il y a deux jours. Je leur ai dit que voilà, il fallait pas qu'elles fassent ça devant la crèche, que c'était interdit. Et en gros, elles m'ont dit qu'elles auraient honte si j'étais leur père, parce que j'ai l'âge d'être leur père, j'ai 40 ans. Mmh. Voilà. En gros, j'aurais pas eu le droit de leur parler, comme si c'était une agression, quoi, de parler à quelqu'un maintenant de nos jours, juste pour lui dire que c'est interdit de faire quelque chose, quoi.
Voilà. Ouais, donc, c'est vrai que c'est délicat. Et elles arrêtent quand même ou elles
disons que maintenant, elles arrêtent, hein, parce que moi, si vous voulez, j'utilise leurs moyens de pression, c'est-à-dire que je leur fais croire que je les filme pour leur dire que j'ai une vidéo d'elles en train de fumer des joints. Et du coup, dès que j'ai mon téléphone à la main, voilà, elles s'éloignent. Voilà, elles arrêtent, elles s'en vont, voilà, en rouspétant, mais en hurlant, presque à l'agression, quoi. C'est ça qui est malheureux de nos jours, c'est qu'on peut plus parler à quelqu'un ou à un jeune ou à une jeune fille sans être taxé d'agression, quoi.
Ouais. Ben merci Pierre, vous étiez le dernier auditeur de la semaine. C'est l'occasion de saluer tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous appellent. Et c'est vrai, on l'a su hier, les résultats sont plutôt excellents dans cette tranche d'information. Donc merci une nouvelle fois à tous ces auditeurs. Merci à toute l'équipe, bien sûr, à Olivier, à Victor, à Florence, à Philippe, à Laurent qui coordonne tout, à l'ami Damien Béchiot, bien évidemment. Pour le moment, c'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Oui, mais avez-vous encore envie de travailler ? Comment expliquer cette pénurie de main-d'œuvre ? Franck est patron d'une entreprise de transport.
Moi, je m'en vais personnellement le lundi matin. C'est 4-5 heures du matin, je rentre le vendredi après-midi. Mais les jeunes ne veulent plus ça. Ne veulent plus. Nous sommes le vendredi midi. Mais arrêtons toute la France. Arrêtons toute la France. Fermons les bars, les gardiens de prison, ils rentrent chez eux, les hôpitaux, ils ferment. Non mais...
Et de plus en plus de restaurateurs ont des difficultés pour trouver leur personnel, comme Jean-Michel.
Il y a trop de social en France. Le social tue l'envie de travailler. Ouais. Ça veut dire que c'est trop facile de travailler 2 mois, 3 mois, et puis de s'arrêter pendant 6 mois.
Mais est-on en train de faire une guerre des générations ? Tiens, Charlotte est étudiante.
Malheureusement, de plus en plus d'employeurs demandent à avoir de l'expérience, un minimum de 3 ans, 4 ans. Forcés de savoir que nos études ne nous permettent pas d'acquérir de l'expérience parce qu'elles nous demandent trop de temps.
Et quand Franck et Charlotte échangent ensemble dans l'émission, qu'est-ce que ça donne ?
Écoutez, ceux qui se plaignent de leur travail, ils se prennent à main tout seuls.
Mais
comme
Franck, vous savez bien que ça se passe pas comme ça, la vie.
Ça se passe pas comme ça.
Alors vous vous plaignez pas. Alors c'est que mais tout Franck, va bien et vous vous plaignez
mais vous
pas.
Vous savez, non, là vous êtes trop dur.
Oui, vous êtes dur.
Je veux dire, dans un parcours professionnel.
Je suis né à 70 au fin fond de la Lozère. À Franck. 70, il n'y avait pas l'eau courante chez moi. Franck. Il a fallu qu'on travaille pour s'en sortir.
Sinon, une question importante : quel jour est-on ?
C'est vendredi.
That's good, it's Friday.
Oui, bah, vous dingue.
Et le vendredi, nous aimons connaître le programme de Monsieur Boubouk. Charlotte, qui était avec nous, vit à Nice. Et je sens un petit rapprochement.
Bon, vous ne passerez pas dans le grand magasin où Charlotte est à Nice.
Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah,
oui,
je suis
parce
prêt
que
à prendre
vous êtes
le
à Paris, cher ami.
Vous êtes bienvenue, Olivier.
Ah, merci. Ah, faites attention, Charlotte. Vous ne connaissez pas Olivier.
Il est capable de le faire. Hein.
Ah, il est capable de prendre le chemin de fer.
J'arrive.
Ah, vive l'amour, vive Charlotte, vive Olivier. Non, Damien Béchiot, n'allons pas trop vite quand même. Enfin, on me dit qu'Olivier est déjà parti prendre le train. Ah, bonne route, ami. Vas-y, mon petit, suis cette règle légendaire.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Et oui, sinon, après l'album de Julien Courbet, Pascal Praud a décidé de sortir un CD de titres.
Oh. The Dreaming Blue. Je vois la vie en duit.
Oh non, on en veut encore. Allez-y, poussez la chansonnette.
On a du slow en blanc, et c'est du bon, croyez-moi.
Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Vous savez, peut-être que Monsieur Boubouk chantera cette chanson à Charlotte ce week-end en arrivant à Nice.
Ça, c'est de la chanson française, madame.
Michel Thor.
Merveilleuse Michel Thor. Ça, c'est une belle chanson. Je crois que je pense que c'est pas Barbe Olivia qui a écrit les paroles.
Ah, c'est possible. Ça lui ressemble.
Il est partout. Il a tout écrit.
C'était une semaine sympathique que de vous suivre, cher Jean-Alphonse Richard.
C'est un grand plaisir à vous voir. Parce
je vous félicite encore
venir dans mon studio.
Pour tous ces auditeurs qui sont de plus nombreux à vous
toujours
écouter entre
nombreux.
14 et 15.
Et on les aime, ces auditeurs. Sans eux, nous ne serons rien. Et bien aujourd'hui, la double vie, hein, peut-être de quelqu'un qui était peut-être un de nos auditeurs, d'ailleurs, Jacques Zell, assureur à Arras. Mais oui, bien sûr, hein, puisque je sais que sa famille écoute beaucoup RTL. Et on parle de cette histoire, de cette double, triple vie de l'assureur d'Arras tout de suite, dans l'heure du crime.
Bonne émission et bon week-end.
Merci.
RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.